Vous êtes toujours sur Romu Ménage, Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, et vous entendez le témoignage de deux femmes en noir de Genève, Françoise Bloch et Rina Nissim, qui viennent de passer une semaine à l'invitation des femmes en noir de Belgrade, en ex-Yougoslavie.
Je crois qu'elle partage ce malheur.
Toutes des traîtresses.
Absolument.
Mais par exemple, je peux te lire là l'extrait d'un entretien que nous avons fait, pour des raisons évidentes, s'est fait en serbo-croate, donc traduit en anglais, et ensuite que j'ai retranscrit en français. C'est une femme qui est réfugiée donc de Mostar, qui ne se détermine pas, je veux dire, par rapport à son origine réellement, bon, qui de fait est serbe, et qui dit « Mostar est devenue croate ». C'est une ville où j'aimerais revivre, mais je ne peux plus y retourner. Je n'ai plus de passé, je n'ai pas de futur, je ne sais pas où mes enfants vont aller vivre. Peut-être que certaines personnes oublient, mais je ne peux retourner dans l'ancienne Bosnie où je vivais, où nous vivions tous ensemble. Ça n'est plus possible. Je ne veux plus aller vivre dans cette Bosnie clean, nettoyée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fortement porté par ces femmes qui sont justement sur des positions qui ne sont pas de type identitaire national, quoi. Et elles ne se déterminent pas. Bon, la même chose pour cette femme de Sarajevo que nous avons interviewée. Elle ne se détermine jamais, je veux dire, par rapport à une origine nationale. Ce qui est quand même intéressant, est-ce que c'est seulement les femmes qui sont dans cette position-là ou est-ce qu'il y a aussi des hommes?
Mais il y a aussi des hommes. Par exemple, la femme dont tu parles de Sarajevo, eh bien, elle est venue se réfugier avec ses deux enfants en bas âge parce qu'elle vivait dans un garage toute la famille et les autres, c'était parmi eux. Ils vivent une quinzaine par pièce. Donc, ils avaient un cousin à Belgrade, donc on l'a envoyé avec les deux gamins. Ils sont restés sur place dans sa famille immédiate, son mari et son père qui sont serbes et qui sont profondément déterminés à rester à Sarajevo. Et qui défendent l'espoir que cela reste une ville mixte, mélangée.
Alors, vous disiez justement, par rapport au témoignage que tu viens de nous donner, Françoise, d'une femme réfugiée de Mostar, les femmes en noir que vous avez rencontrées travaillent, entre autres, à l'accueil des femmes réfugiées. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'elles essayent de faire? Est-ce que, justement, elles essayent de partager avec elles les difficultés du quotidien, dont l'approvisionnement dont vous parliez tout à l'heure, ou essayent de les accompagner par rapport à ce qu'elles ont vécu? Qu'est-ce qu'elles essayent d'entreprendre?
Alors là, c'est vrai qu'elles ont d'abord... quand le flot des réfugiés est arrivé à Belgrade, toutes ces femmes qui n'étaient pas sur des positions ethniques, entre guillemets, donc des positions nationalistes, les ont rejointes. Et là, s'en est suivi une très très longue discussion entre elles, je veux dire, sur justement les souffrances que les unes enduraient indirectement par rapport à la situation et que les autres avaient enduré directement de par la purification ethnique qu'elles avaient subie. Et en fait, elles ont donc élaboré un projet auprès pour pouvoir agir dans ces camps de réfugiés. Et là, elles font une critique qui est extrêmement pertinente, je veux dire, de l'aide humanitaire. C'est-à-dire, elles disent, on est des numéros, on va faire la queue, on prend notre boîte, mais en fait, il n'y a absolument aucune occupation qui nous est proposée. Tous nos savoir-faire, nos savoir-dire, nos savoirs communiquer, même faire la cuisine, ce qui est un truc élémentaire, on ne le fait plus. Donc, dans les camps de réfugiés, ces femmes s'ennuient, dépriment évidemment énormément, puisqu'elles ont tout perdu, bien souvent leurs enfants, leurs maris, toutes les familles sont éclatées. Donc, le projet qu'elles ont mis sur pied, outre... De faire retrouver à ces femmes leur savoir-faire à travers toute une série de travaux qu'elles font dans ces camps, ça a été de leur redonner l'estime de soi. Et pour leur redonner cette estime de soi, elles ont conçu une espèce de dépliant qui est superbe. Enfin, moi, j'en ai vu un exemplaire. À gauche, donc, la femme dessine ou met une photo de son lieu, celui dans lequel auquel elle s'identifie, quoi. Ça peut être un dessin, ça peut être une photo d'un proche, ça peut être la photo de sa maison, de son village, etc. Puis à droite, elle écrit un texte. quoi. Et donc toutes ces mémoires qui sont en fait des processus de retrouver son identité pour ces femmes et sont joints aux produits qu'elles fabriquent, de manière à ce que quand on achète un produit qu'elles ont fabriqué, on sache, je veux dire, quelle est la personne qui l'a fabriqué et comment cette personne se retrouve elle-même en vendant ce produit. Et ça, c'est ce travail qu'elles ont élaboré pour pouvoir aller dans ces camps de réfugiés et qu'elles font avec les femmes réfugiées là-bas. Parce qu'il faut quand même dire que dans ces camps de réfugiés, il y a 90% de femmes et d'enfants.
Ceci dit, c'est évident qu'elles doivent travailler à une petite échelle. Elles ont donc choisi certains camps, qu'elles trouvaient les camps peut-être les plus désavantagés pour y aller, car elles ont un nombre limité de personnes. Elles ont une vingtaine, une trentaine de bénévoles. Par exemple, elles ont choisi le camp de Milochevats, qui est un camp qu'elles peuvent arriver à rejoindre par un moyen de transport, parce qu'il y a aussi ce problème. Les moyens de transport sont extrêmement limités, vu que l'essence est employée essentiellement pour la guerre. Et dans ce camp, les personnes sont 31 par chambre. Il n'y a pas de toilette ni de latrine. Les personnes sont à même le sol, donc le sol n'est pas aménagé. Ça veut dire quand il pleut, ils sont dans la boue. Ils sont bien sûr envahis par des rats. C'est un camp qui est tenu par la Croix-Rouge. Et l'alimentation assurée par la Croix-Rouge est une alimentation complètement minimum. C'est carbohydrates minimum. Donc c'est évident que l'aide matérielle qu'elles peuvent amener est relativement limitée. Par contre, ce qu'elles peuvent amener, c'est le principe du self-help, l'idée de se remettre ensemble, d'essayer de recréer une base, un noyau d'organisation. Et je pense qu'entre elles, les femmes, quand elles se sont racontées 10 fois, 20 fois leurs histoires et qu'elles l'ont pleuré, ben, elles peuvent simplement plus les raconter. Par contre, si une personne de l'extérieur vient, peut-être elle-même aussi réfugiée d'ailleurs, ce qui rend les choses plus faciles, elles peuvent à nouveau refaire ce témoignage et retrouver une estime d'elles-mêmes, leur permettant éventuellement d'aller de l'avant et de faire quelque chose qui leur donne une meilleure image d'elles-mêmes que de simplement d'être là un numéro, comme mentionnait Françoise.
Est-ce que le problème des femmes qui ont été violées fait partie aussi de leurs préoccupations ?
Alors ça, bon, ça c'est quelque chose qui demande à vraiment être beaucoup dit. Bon, parce qu'on a entendu beaucoup parler de ça, et puis nous aussi, nous sommes beaucoup mobilisés par rapport à ça. Et on avait vraiment le sentiment, je veux dire, que le viol, ça allait être quelque chose qui allait émerger en dernier. Parce que ça nécessite une confiance dans la personne auprès de laquelle on peut parler. Elle disait d'ailleurs, bon, dans le camp de réfugiés où nous allons, on sait qu'il y a au moins plusieurs femmes qui ont été violées, mais elles ne peuvent pas le dire encore, parce qu'il faut d'abord qu'elles récupèrent un peu d'estime d'elles-mêmes. En fait, on sait très très bien que le viol, de toute manière, c'est ce qui émerge en dernier. Il faut d'abord que tous les problèmes matériels, je veux dire, de leurs voisins, de leurs pères, de leurs frères, de leurs enfants, etc., que tout ça, ça soit un peu mis en place. Et puis, seulement après, je veux dire, le viol peut sortir. Mais elles disent, on sait qu'il y en a qui ont été violées, mais elles ne peuvent pas encore le dire. Mais elles ont évidemment ça à présent à l'esprit, bien évidemment. Mais elles contournent un peu l'obstacle. Elles portent plus largement sur le problème de la violence et de la vie quotidienne que ces femmes vivent pour leur redonner confiance en elles-mêmes. Et puis après, bon, je veux dire, on entend maintenant seulement parler des viols de la dernière guerre mondiale. Je veux dire, donc on sait très bien que c'est pas un problème qui va réémerger comme ça.
Ceci dit, bien sûr, elles ont quand même eu des témoignages de femmes violées. De la même manière, les femmes de Zagreb qui visitent les camps également, dans leur groupe de self-help qu'elles ont organisé. Et quand une ambiance suffisamment solidaire s'est recréée, ces témoignages sortent. Mais il est évident qu'au niveau documentation, c'est encore c'est la pointe de l'iceberg, ce n'est qu'une petite quantité du réel problème. En Bosnie, de la même façon, le projet que nous avons décidé de soutenir en tant que Femmes en Noir Genève est précisément un projet pour les femmes victimes de violences de guerre. C'est un centre qui existe maintenant depuis plus d'une année, qui est basé à Zenica, et où il y a une femme gynécologue et des psychologues et des femmes d'autres professions qui reçoivent, elles, spécifiquement, dans une sorte de clinique, si vous voulez, avec des lits, des femmes qui ont été victimes de violences. Et elles, dans leur région, elles documentent ces crimes. Et donc, je pense que dans beaucoup, beaucoup d'années, en remettant tout ça ensemble, on pourra se faire une image réelle de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de se passer.
D'ailleurs, bon, je reprends encore un extrait de l'entretien de cette femme de Mostar, parce qu'elle parle de ça, quoi. Elle dit, bon, tuerie, règlement de compte, bon, contre les Serbes, puisque c'était de ça dont il s'agissait, donc à Mostar. Quand je suis revenue, j'entendais beaucoup parler des viols. Mais en fait, c'est une vision trop étroite de la violence subie. Tout le monde est menacé dans sa vie. On ne peut pas parler que du viol, car n'importe qui vit avec la peur d'être tué ou violé. Et ensuite, un peu plus tard, elle dit, notre vie ne vaut rien, elle ne vaut plus rien. On peut être tué à cause d'une voiture, par exemple. On a une voiture, on veut nous la piquer, ou n'importe quoi. J'ai essayé de survivre, et en même temps, je ne veux pas généraliser à partir du nom d'un criminel à tout un peuple. Elle dit, bon, j'ai les violeurs, les agresseurs, les tueurs ont tous un nom et un prénom. Mais je ne dois pas généraliser ces atrocités à tout un peuple, à une nation. Donc c'est quand même, bon, on voit que même elle, je veux dire, on ne sait pas, je veux dire, si ça se trouve, elle a aussi été victime de viol. Mais quand elle donne ces exemples-là, elle ne pose pas ce problème-là comme un problème spécifique, elle le pose dans l'ensemble de la violence que les femmes et les hommes, mais les femmes principalement subissent, et les enfants.
Mais vous nous avez dit quand même tout à l'heure qu'il y avait un groupement spécifique sur les violences conjugales. Comment tu l'as appelé ? SOS Téléphone, Rina ?
SOS Téléphone existe à Belgrade. Il existe dans d'autres villes, comme par exemple Kraljevo. Il y avait quelques femmes de Kraljevo qui étaient présentes. Et elles, donc, elles reçoivent des appels, pas seulement de viols, mais de toutes sortes de violences, tabassages. Elles sont étonnées par à présent, les armes interviennent dans ces scènes, hein, puisque tous les hommes sont armés et que les armes circulent partout. Les armes interviennent dans ces scènes de violences conjugales comme pas auparavant. Donc, hein, c'est un changement. La menace de mort quand l'homme à la maison est porteur d'une arme, pour sa femme, est très différente que les menaces qu'on peut vivre dans une période de paix. Donc là, bien évidemment, elles reçoivent des appels tout à fait concrets et peuvent être amenées à intervenir dans une situation concrète. De la même façon, dans ce groupe de Zenitsa dont je parlais, elles ont à présent déjà une deuxième maison, qui est une maison de retranchement où elles peuvent transférer des femmes après un séjour court et où elles étaient dans une situation plus aiguë. Elles peuvent les transférer pour un séjour plus long au cas où elles ne pourraient pas retourner de là d'où elles venaient. Et elles en sont déjà arrivées, pour revenir sur ce principe du self-help, c'est en fait des ex-assistées, des femmes qui avaient elles-mêmes été victimes de violences au début, qui sont aujourd'hui des travailleuses pour les femmes qui viennent. Donc c'est une structure déjà assez organisée qui est là en place. La grande difficulté, c'est qu'elles vivent dans une région qui est sous siège. Donc Zenitsa est sous siège depuis avril 1993. Il n'y a pas de communication directe avec elles. Il n'y a que les convois qui vont et qui viennent et qui nous permettent d'avoir des informations ou qu'une personne revienne et raconte.
En el centro de todo.
Ce qui me frappe dans ce que vous racontez toutes les deux, c'est, enfin, ce qui me touche moi, c'est la peine à m'imaginer à la fois comment elles vivent ça au quotidien, puis comment elles essayent de travailler, de faire quelque chose, de résister dans le sens d'un futur. Parce qu'il y a la réaction au jour le jour, et puis il y a, par exemple, ce que vous disiez sur le viol, c'est sûr que ce sera une histoire à très long terme. Et puis, est-ce qu'elles rêvent d'un demain qui sera différent d'aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, l'idée des accords de paix, ça intervient dans leur travail, par exemple? Ou bien c'est quelque chose qui est tellement loin de chez elles que, de toute façon, ça n'influence pas la façon dont elles s'organisent et dont elles résistent?
Il y a deux choses d'abord. Il y a la première, c'est que je crois qu'au début, personne ne pensait que la guerre durerait aussi longtemps. Et comme tu le disais tout à l'heure très justement, la Yougoslavie, contrairement à d'autres pays de l'Est, comme la Tchécoslovaquie par exemple ou la Pologne, c'est un pays qui était assez développé au niveau économique. Donc les gens vivent, enfin quand on va chez les gens, c'est comme chez nous quoi. Je veux dire, on a l'impression que les gens avaient une certaine aisance, en tout cas un certain nombre de gens dans les villes en tout cas. Et donc, ils ne s'attendaient pas du tout, tout d'un coup, à plonger dans la misère et la pauvreté, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit. On pourra discuter peut-être un autre moment tout à l'heure du coût de la vie et du prix des choses. Je veux dire, mais bon, ces gens ne s'attendaient pas. Donc, ils ne sont pas du tout organisés. On peut imaginer comment ça se passerait à Genève. Je veux dire, chacun chez soi en train de faire ses courses et tout d'un coup, on se retrouve avec des produits qu'on ne peut plus trouver. Et donc, il y a cet aspect-là. Donc elles disent qu'en fait, elles ont l'impression qu'elles ne reverront plus la prospérité qu'elles ont connue. Il faudra au moins 20 à 30 ans pour pouvoir arriver à remonter la pente qu'elles ont descendue très très vite. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est les violences. Elles laissent des traces chez tout le monde. À Belgrade, on n'a pas l'impression en fait que les gens sont en guerre. Mais en fait, la peur, elle est là, quoi. Et bon, par rapport à ces violences dont parlait Rina tout à l'heure, les violences conjugales, quoi. Il y a deux cas de figure. Hein. Bon, il y a, je dirais presque trois. Il y a les hommes qui n'ont pas pu partir au front et puis dont la haine est constamment réactivée par les émissions, je veux dire, de télévision, puisque c'est le gouvernement serbe qui a l'emprise sur les médias. Il y a une deuxième catégorie d'hommes, je veux dire, qui, eux, ont été forcés d'aller à la guerre et qui ne voulaient pas y aller et qui reviennent avec des troubles, je veux dire, du comportement qui sont, bon, incommensurables, c'est-à-dire qui ont des troubles vraiment très, très forts parce qu'ils ont été contraints à tuer, je veux dire, des gens pour lesquels ils n'avaient pas une hostilité particulière. Et puis, il y a la troisième catégorie qui est constituée des hommes qui sont vraiment nationalistes et qui, je veux dire, se nourrissent aussi de la guerre et de la haine, etc. Donc, en fait, les femmes, elles payent le prix fort dans ces trois cas. Hein. Donc, c'est cette situation-là dont je crois qu'ils ne vont pas se remettre aussi vite que ça.
Ceci dit, je crois qu'elles vivent vraiment très au jour le jour, justement. Hein. Elles vivent complètement au jour le jour. Elles ne prennent pas de temps de repos. Elles n'arrivent pas à prendre de pause. Elles sont complètement là-dedans, jusqu'au cou, avec complètement immergées dedans, avec toutes les demandes qu'elles reçoivent, à essayer d'y répondre, à essayer de faire quelque chose. Mais néanmoins, je crois qu'elles s'en sortent quand même mieux que celles qui ne font pas ça. Il y a quand même une certaine estime de soi-même de faire quelque chose qui est quand même plus positive que de rester passif dans son coin en train de mourir de trouille. Dans ce sens-là, moi, je les ai vus quand même assez bien. Bien sûr, il y a de la dépression dans l'air, justement, comme disait Françoise, parce qu'on ne voit pas très bien quand ça va s'arrêter. Et il y a une crainte énorme que ce conflit dure encore longtemps et peut-être même qu'il s'étende. Donc, c'est vrai que le futur est très, très sombre et qu'il est difficile à tracer. Mais le fait d'être organisé, de faire quelque chose et d'être ensemble, c'est un bon point. C'est un point fort qui maintient leur morale. Et nos visites et notre soutien de l'extérieur est essentiel pour elles. Même le soutien moral, je veux dire, c'était assez étonnant de les entendre dire qu'en fait, elles ont reçu du soutien de l'étranger presque plus vite qu'elles n'ont eu le temps de le demander, que les Italiennes étaient déjà là relativement au début et que vraiment, la solidarité dans le mouvement des femmes, c'est quelque chose de concret et d'extrêmement important pour elles.
Mais ces femmes, est-ce qu'elles sont, entre guillemets, militantes à plein temps? Est-ce qu'elles travaillent par ailleurs? De nouveau, comment dans la vie quotidienne leur action s'intègre?
Alors, elles sont militantes à plein temps, certaines d'entre elles payées, grâce à une aide de l'extérieur, bien évidemment, et puis d'autres d'entre elles sur une base bénévole et vivant en même temps dans une famille.
Et puis, en fait, bon, alors je crois qu'il faut comprendre aussi quelle est la situation à Belgrade, parce que, et dans toute la Yougoslavie, c'est-à-dire, la question que je me pose, c'est qui travaille encore, hein, parce que, compte tenu de la désorganisation totale, à la fois de l'économie et des mouvements migratoires, parce que quand même, sur 22 millions d'habitants que représentait l'ex-Yougoslavie, il y a 5 millions de réfugiés. C'est-à-dire réfugiés au sens fort, déplacés, réfugiés de gens qui sont, en tout cas, en dehors de leur territoire, en dehors du lieu où ils travaillaient. Donc, effectivement, on a essayé de parler avec elle de ça, c'est-à-dire quand on voit le prix des choses et qu'on sait quel est le salaire moyen en Yougoslavie, on se dit, mais comment les gens ils peuvent arriver à vivre? Alors, c'est la question, d'ailleurs, on en discutait dans le train avec des Yougoslaves qui vivent à l'étranger, et tout le monde se posait la question, comment font-ils pour arriver à vivre?
Parce qu'est-ce qu'ils ont encore un salaire, puisque tu dis que certainement ils travaillent plus.
6 salaires il y a, il leur permet de gagner en moyenne 10 marques par mois, maximum 20-30, si c'est vraiment un très très bon salaire. Et avec cet argent-là, on a calculé qu'avec le prix des denrées de base, hein, le kilo de patates, enfin vraiment les choses de base, ben, ils pourraient tenir le coup quelques jours, puis après ils n'auraient plus rien. Donc ou bien ils ont des économies, ou bien ils se sont lancés dans une entreprise de démerde d'un genre ou d'un autre, entre autres de faire les trajets vers la Hongrie et de revenir avec des choses. C'est la démerde ou c'est la fin, quoi.
C'est vrai que les gens qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont une aide parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Il suffit de voir, d'ailleurs, nous, on a quand même fait le voyage, on voit un peu les bagages que les gens transportent. C'est impressionnant, quoi, hein, parce que tout le monde apporte des choses, on ne vient pas les mains vides, quoi. Hein. Et puis, donc, je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux, effectivement, qui sont organisés collectivement et qui s'entraident. Ceux qui ont de la famille à l'étranger, ceux qui ont des aides, je veux dire, de toutes sortes, enfin, que ce soit par des groupes qui les soutiennent, etc. Mais ceux qui s'en sortent très très mal, justement, c'est ceux qui sont isolés et qui n'ont pas d'aide à l'extérieur.
On a par exemple la réintroduction des soupes populaires. On arrive à servir 2000 repas dans la rue à Belgrade, mais ils ont calculé qu'il leur en faudrait probablement 20 000. Donc ils sont complètement en dessous de ce qui serait nécessaire pour assurer ne serait-ce que le minimum vital. Et ça, c'est encore Belgrade. Donc c'est mieux que dans d'autres régions qui sont par exemple en état de siège. Donc Belgrade n'est pas en état de siège, par exemple.
Vous avez sûrement discuté avec elle justement de plein de choses qu'elle vit au quotidien. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être nous témoigner de la vie de ces femmes en particulier. Comment elles se débrouillent justement dans ce quotidien?
Bon, l'emploi du temps, en fait, c'est une chose qui a été évoquée comme ça le matin pendant que nous discutions avec l'une d'entre elles. Alors, le nombre de choses au quotidien qu'elles sont censées faire, c'est assez impressionnant, quoi. Parce que, bon, d'abord, tout ravitaillement prend énormément de temps, hein. Bon, on a passé un moment au marché, le matin. Bon, d'abord, entre le coût des choses, plus les queues qu'il peut y avoir pour les choses qui sont encore à peu près abordables, ça mobilise déjà une grosse partie de leur temps. Ensuite, bon, dans la rue, ces femmes, elles sont constamment à l'affût, d'autres femmes qui vont pas bien. Bon, et à un moment, il y en a une, elle s'est arrêtée pour aller voir une copine porter une lettre, etc. Et bon, elle est redescendue avec quelqu'un d'autre en disant elle flippait chez elle, elle pouvait pas rester comme ça toute seule. Donc, bon, en arrivant chez elle, bon, il y a 3 enfants qui sont dans la rue, il y a 3 femmes qui sont là, elle nous raconte l'histoire de ces femmes, elles les connaissent, quoi. Donc, déjà, ça mobilise pas mal de temps. Les déplacements, bon, on voit on peut marcher au milieu des rues, hein, il n'y a aucun problème, il n'y a plus de voiture. Hein. Mais les queues qu'il y a dans la rue, pour les transports en commun, donc le moindre déplacement représente déjà, une grande énergie et un grand temps. Et puis, il y en a quand même quelques-unes qui ont des petits boulots, qui continuent quand même à maintenir un minimum de travail, plus, je veux dire, le fait que ces femmes-là, en particulier, s'organisent pour survivre ensemble, pour se soutenir mutuellement, pour faire ce que Rina appelle du self-help, c'est-à-dire, quand il y en a une qui lâche, heureusement, c'est pas l'autre à pas lâcher. Donc, en fait, on se soutient mutuellement, quoi.
Comment elles font savoir ce qu'elles font ? Comment elles font connaître l'appui qu'elles peuvent donner ? Et est-ce que ça va au-delà du bouche à oreille, simplement parce qu'on sait que les moyens de communication, pas seulement de transport, mais de communication au sens propre du terme, sont très difficiles. Par la presse, c'est quasi impossible. La télévision, la radio, non plus. Alors, comment font-elles ? Est-ce qu'elles ont l'envie de travailler dans leur pourtour immédiat, ou est-ce qu'elles essayent de faire savoir, d'une part, leur prise de position, puis ensuite, ce qu'elles peuvent faire pour aider leurs comparses?
C'est sans doute cela la plus grande difficulté, autant pour les femmes en noir que pour le mouvement contre la guerre. De la même façon, les intellectuels qui sont regroupés sous le nom de Cercle de Belgrade, qui se réunissent tous les jours entre 11h et midi, plus une fois par semaine, d'une manière plus large et publique, je pense qu'ils ont tous la même difficulté, c'est comment atteindre les gens d'une manière plus large. Et je crois que c'est leur grande, grande difficulté, qu'il n'y a pas de réel moyen pour eux, à part le bouche à oreille, comme tu dis, ou justement une présence visuelle.